Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes un peu réchauffé, parce qu'on est dans une salle qui n'est pas très très chaude. Voilà. Simplement pour vous rappeler, ce matin, ce qu'on a essayé de faire, c'était de déployer un petit peu cette notion de la priorité aux plus pauvres chez Joseph Brzezinski, en voyant, disons, dans quel cadre historique ça prenait place. Jean-Claude nous l'a pas mal expliqué, et puis après on a vu un petit peu qu'est-ce qui sous-tendait, sur quoi ça s'appuyait, disons. Hein. Cet après-midi, la perspective, c'est de voir comment cette réflexion-là peut avoir un effet dans d'autres champs de la théologie, dans l'ecclésiologie, dans la manière de penser l'ecclésiologie, dans la manière de penser la croix, dans la manière de penser l'évangélisation, etc., etc. Voilà.
Donc Étienne va continuer, puisque c'est la même structure, deux interventions, puis un petit temps de débat, avant la pause. Et il n'y a pas besoin de présenter Étienne, il est tellement bien connu ici que je m'abstiens de le présenter.
Voilà, donc moi je vais essayer de parler, de voir en quoi la perspective de Joseph Brzezinski pourrait, disons... qu'est-ce que ça pourrait ouvrir pour une théologie de la croix? Voilà. Pour commencer, il me semble qu'on peut dire que la mort du Christ sur la croix est pour nous un événement d'une portée immense, mais en même temps, ça reste très mystérieux. Et je vous avoue que chaque année, je suis très touché lors des fêtes du Vendredi Saint, quand il y a ce geste de la vénération de la croix, où on voit tous les fidèles qui s'approchent. Et en les voyant, parce que souvent je suis du côté des célébrants, donc je les vois de face qui s'approchent, je suis frappé par les attitudes de ces personnes qui disent combien on est devant quelque chose qui nous dépasse largement. Voilà. Alors la question que je propose d'aborder, on pourrait la formuler comme ça. La perspective de Joseph Brzezinski pourrait-elle apporter une lumière un peu nouvelle sur cet événement de la croix où notre salut s'est joué? Alors, avant d'entrer dans cette question proprement dite, je dois faire un petit rappel sur, disons, on pourrait dire quatre grandes manières de penser le rapport entre la croix et le salut, pour ensuite voir comment Joseph Brzezinski, lui, il pourrait se situer par rapport à ça. Il y a en effet plusieurs manières de comprendre la croix. Et on doit d'ailleurs sans doute renoncer à chercher ce qui serait la seule et unique lecture possible. Si on tient qu'il y a plusieurs manières de comprendre la croix, chacune peut compléter les autres, voire même les corriger. Donc il me semble qu'à partir même du Nouveau Testament, on voit quatre manières différentes de présenter la croix. Elles seront ensuite déployées avec des accentuations nouvelles au cours de l'histoire de la théologie. Tout d'abord, on peut penser la croix comme ce qui permet de donner figure au péché, au mal, ce qui permet de le voir dans toute sa force et de reconnaître où mène sa logique. Et cela, ça permet qu'il soit démasqué et qu'il soit vaincu par Dieu. Cet axe de lecture est par exemple proposé par Paul, par exemple, quand il dit « Dieu, en envoyant son propre Fils, a condamné le péché dans la chair ». C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Ou bien, quand il écrit « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher ». Le Christ, en prenant sur lui le péché, va permettre sa destruction. Et on nous dira, toujours dans l'Épître aux Romains, que sur la croix, c'est le vieil homme qui est cloué à la croix. Alors ça donnera lieu à ce qu'on appellera la théologie de la substitution. Le Christ prend la place du pécheur, il prend sur lui le péché au point de s'identifier, de pouvoir être identifié au péché, et il évite ainsi que les conséquences du péché frappent l'humanité. Ainsi, la croix permet une mise en lumière du mal, elle permet aussi que Dieu s'y affronte, mais c'est lui-même qui prend ce mal sur lui, en son Fils, et Et c'est donc lui qui fait tout le chemin qui nous délivre du mal. Ça, c'est une première manière de comprendre la croix. On peut comprendre aussi la croix comme un événement de solidarité. Sur la croix, Dieu vient rejoindre l'humanité dans la pire des situations, dans la situation des humiliations, de la condamnation, de l'abandon. Et le cri mis dans la bouche de Jésus, qu'on trouve dans l'évangile de Marc et de Matthieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois qu'on peut l'entendre dans ce sens-là. Le Fils lui-même consent à faire l'expérience de l'abandon. Dieu, en se plaçant ainsi en Christ, aux côtés de l'humanité abandonnée de tous, même de Dieu, au moins en apparence, il manifeste ainsi que tout être abandonné est en fait rejoint par lui, que le Fils en personne est en communion profonde avec lui pour avoir vécu la même chose. Alors, la croix, elle est le signe que personne n'est abandonné. Le Christ nous rejoint jusque-là, jusque dans les situations les pires qu'on puisse imaginer. Voilà une deuxième manière de penser la croix et le salut qui lui est associé. Il y a encore une troisième manière de penser la croix par analogie avec le sacrifice dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que fait l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Le sacrifice, c'est ce qui sert à rétablir une relation entre l'humanité et Dieu. C'est une offrande faite à Dieu où l'on espère en retour un bienfait de sa part. La lettre aux Hébreux lit la mort de Jésus comme une offrande volontaire du Christ, lui qui est pleinement notre frère, vrai homme, et en même temps qui est le Fils resplendissant de la gloire du Père. Autrement dit, la relation est rétablie par Dieu lui-même qui s'est fait l'un de nous. On pourrait dire le schéma de base du sacrifice qui est un lien rétabli avec Dieu, ce schéma de base est conservé, mais son économie en est profondément modifiée, puisque c'est Dieu lui-même qui rétablit le lien. C'est lui-même qui franchit le fossé qui séparait l'humanité de Dieu. Et le lien ainsi rétabli l'est pour toujours, alors que les sacrifices de l'Ancien Testament devaient être périodiquement faits de nouveau. À partir du Moyen-Âge, on a développé cette lecture de la croix en insistant beaucoup sur le prix payé pour rétablir les relations entre Dieu et l'humanité, ce qui peut exposer à un risque de régresser vers une logique comptable pour penser les relations entre Dieu et l'humanité. Voilà, ça c'est une troisième manière de penser la croix. Il y a encore une quatrième manière, je crois, pour penser la croix, mais qui est exprimée de manière très discrète dans le Nouveau Testament. Ça serait la croix comme lieu d'une réconciliation. C'est, je crois, ce que fait l'auteur de la lettre aux Éphésiens, quand il écrit, en parlant du Christ, « C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa personne, il a tué la haine. » Voilà, donc c'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 18. Alors, comment, par rapport à tout ça, comment la pensée du Père Joseph peut se situer? On pourra dire que ce qui est le plus évident, c'est qu'il rejoindra la deuxième manière de parler de la Pâque du Christ. La croix est le signe de jusqu'où va la solidarité de Dieu envers l'humanité en détresse. Ça, c'est le plus évident. Ce matin, dans l'exposé de... c'était peut-être de Guénola, ou de... Enfin, je ne sais plus, dans un des exposés, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on voit que le Père Joseph rejoint aussi la troisième manière de penser la croix comme sacrifice. Mais il me semble, et c'est l'hypothèse que j'avance, que la perspective de Joseph Brzezinski donne également de quoi nourrir la quatrième lecture de la croix, celle qui la voit comme réconciliation. Certes, je reconnais que lui-même a peu explicité cette vision. Mais je crois que dans ses écrits, il y a de quoi aller en ce sens. Et c'est cette perspective que je vais ici développer, dans laquelle la mort et la résurrection du Christ peuvent être lus comme événements et promesses de réconciliation. Voilà. Tout l'engagement de Joseph Brzezinski indique un désir passionné de rejoindre les plus pauvres. Je pense que ça, c'est maintenant bien clair après tout ce qu'on a entendu ce matin. Hein. Et pour lui, ça, c'est simplement suivre le chemin de Jésus. Je vous redis une petite phrase dans laquelle il parle de la mission du Christ. Hein. Il sera un exclu, il mourra décrié, conspué, humilié, comme le sont les exclus. C'est cela, Golgotha, l'acte qui résume tout. Le Christ, avec les marginaux, en dehors de la cité, et parmi ceux qui, officiellement, étaient mis à l'écart. Pour lui, il ne s'agissait pas de faire pauvre, de faire peuple. Il s'agissait d'être le misérable et de faire ainsi des misérables les témoins privilégiés de Dieu dans le monde. Ça, on a entendu ça très clairement ce matin déjà, être misérable. Hein. Voilà donc un élément clé de la pensée de Joseph Brzezinski. Le Christ a été condamné, il est mort sur la croix, à cause de sa passion pour les membres de son peuple qui étaient menacés d'exclusion. Passion qui est allée et qui l'a conduit à s'identifier à eux jusqu'à devenir l'un d'eux. On peut dire que c'est cette passion qui l'a perdue. Voilà, on retrouve ici ce que j'ai présenté comme étant la deuxième manière de comprendre la passion. Sur la croix, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, vient rejoindre ceux qui sont abandonnés de tous. Et Joseph Brzezinski d'ailleurs ne s'en tient pas là. Il ajoute qu'ainsi, le Christ, je cite, « fait des misérables les témoins privilégiés de Dieu dans le monde ». Et ça, Guénola l'avait signalé aussi ce matin. Du coup, il implique les plus pauvres comme étant des vrais témoins de la Pâque du Christ. On voit donc que Joseph Brzezinski prend très au sérieux cette solidarité entre le Christ et ceux qui sont frappés par la misère. Et ce n'est pas une solidarité transitoire qui aurait juste duré le temps de l'agonie du Christ. C'est une solidarité pour toujours. Elle fait des plus pauvres les témoins les plus sûrs de Dieu. Voilà. Cela dit, là n'est pas le tout de la pensée du Père Joseph. Il nous faut ajouter un autre élément, et c'est lui qui nous permettra d'aller vers la quatrième manière de comprendre la croix. C'est que cette passion pour l'homme rejeté, on doit la considérer, si l'on veut être tout à fait fidèle à la pensée de Joseph Brzezinski, comme la fine pointe d'une passion plus large de Jésus vis-à-vis de tout son peuple. On ne peut séparer chez Jésus, d'après Joseph Brzezinski, la passion du plus pauvre d'une passion pour son peuple dans son ensemble. Et ça, on l'a aussi entendu ce matin. Je m'explique. Si la passion du Christ pour les exclus eût été exclusive, c'est-à-dire si Jésus avait finalement désespéré des membres du peuple en position de pouvoir ou de richesse, le Christ ne serait pas mort sur la croix. Tout simplement, par exemple, il n'aurait pas pris la peine de monter à Jérusalem pour parler, pour s'adresser à son peuple et au plus grand de son peuple. Hein. Ce qui entraîne la mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas une fidélité exclusive aux plus pauvres, c'est une passion pour tout son peuple qui le conduit à cette grande proximité aux plus mal vus et qui provoque en retour la haine de tous ceux qui se sentent menacés par cette proximité. Et c'est cela qui déchire Jésus et qui le broiera. Jésus sur la croix n'est pas broyé par sa proximité aux pauvres, il est broyé parce qu'il refuse de dissocier cette passion pour les pauvres d'une fidélité à tout son peuple. Si sa passion pour les exclus eût été exclusive, les autres ne se seraient même pas sentis concernés. Mais c'est justement parce qu'elle est un élément, et on peut même dire l'élément clé, de son rapport à l'ensemble de son peuple, que cela provoque ce déferlement de violence contre lui. À partir de là, on peut regarder, je crois, les deux bras de la croix comme deux dimensions d'une même passion du Christ et de Dieu pour l'humanité. Passion pour tout son peuple, qui s'exprime d'abord comme passion pour les plus humiliés. Il y a la croix, parce que mise en musique selon l'esprit du monde, cette double fidélité est intenable. Elle joue comme opposition de deux forces antagonistes qui tirent chacune de leur côté l'une contre l'autre. Les gens bien installés ne supportent pas la proximité de Jésus aux plus pauvres. Ils la voient comme une agression et cela déchaîne chez eux une violence implacable. À partir de là, on peut voir la croix comme déchirure, comme le signe d'un antagonisme qui passe dans le corps même de Jésus. Son corps est comme écartelé par cette passion pour son peuple, indissociable chez lui de la passion pour les plus humiliés, mais qui provoque cette déchirure en son corps. Et on peut dire qu'il prend de plein fouet en lui la violence qui déchire son peuple. Qu'est-ce qui me permet de tenir ce raisonnement ? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas trouvé de texte du Père Joseph corroborant exactement ce que je viens de vous dire. Ça demeure donc une hypothèse. Mais on peut avancer deux éléments qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est le soin constant du Père Joseph de ne jamais céder à la facilité d'un mépris pour les riches. On l'entend par exemple dans le texte suivant. Le chrétien doit aller jusqu'au bout de la rencontre des hommes. Il ne peut jamais se satisfaire de rencontres qui n'atteignent pas tous les hommes, les plus pauvres comme les plus riches. Il ne peut pas accepter de poser un problème sans voir l'homme à travers lui, sans rechercher en quoi il affecte les plus pauvres. Donc vous voyez, tous les hommes sont compris, mais les plus pauvres, en même temps, ont une priorité. Hein. On voit bien comment les choses jouent dans son esprit. La fin ultime est la rencontre de tous les hommes. On pourrait gloser en disant, c'est les retrouvailles de toute l'humanité, finalement, des plus riches aux plus pauvres. Mais cela passe par une priorité aux plus pauvres. Et cette priorité n'est pas dissociée de la fin ultime que je viens de rappeler. Un deuxième élément pour appuyer, disons, cette vision du Père Joseph, je l'ai trouvé dans une méditation de Joseph Brzezinski sur la descente aux enfers, qui allait un peu dans un autre sens que celle que Laure a évoquée ce matin. Je lis, c'est dans « Les pauvres rencontres du vrai Dieu ». Puisque le Christ n'alla pas seulement jusqu'à la croix, mais quand ce vendredi saint, il descendit aux enfers, il offrit son corps, sa vie, pour la rémission de tous les péchés. Mais pour que le pardon soit total et définitif, il fit cette démarche que nous ne pourrons jamais imaginer. Il alla dans les ténèbres, dans la vallée de la mort. Jésus est allé rencontrer l'Antichrist, affronter le contraire absolu de la volonté de Dieu, la négation de Dieu lui-même. Et je crois comprendre qu'en descendant dans les ténèbres, Jésus acheva sa mission en sauvant aussi les nantis, les oppresseurs, ceux qui savent ou ne savent pas ce qu'ils font en torturant les malheureux. Sans cette descente dans l'innommable horreur, tous les hommes n'auraient pas été sauvés. L'amour de Dieu ne serait pas allé jusqu'au bout de l'anéantissement. C'est un texte étonnant. Je ne sais pas s'il y a déjà eu dans la tradition une pareille manière de penser la descente aux enfers. Il me semble que Joseph Brzezinski l'interprète de la manière suivante. Puisque la rencontre avec les oppresseurs n'a pas pu avoir lieu à l'occasion de sa mission, puisque la réconciliation de tout le peuple n'a pas pu s'opérer, eh bien cette rencontre, Jésus va la vivre dans les enfers, c'est-à-dire là où nous nous sommes mis quand nous sommes devenus des oppresseurs. La dernière phrase du paragraphe semble d'ailleurs indiquer que pour le Père Joseph, il s'agit du jusqu'au bout de l'anéantissement, c'est-à-dire du jusqu'au bout de la croix. Ce qui n'a pas pu avoir lieu dans l'histoire a lieu dans les souterrains de l'histoire, dans les ténèbres, dans la vallée de la mort. Voilà donc de quoi appuyer, il me semble, cette manière, disons, de comprendre la croix, d'après Joseph Brzezinski, comme le lieu de cette réconciliation entre tout son peuple, mais ça passera par une réconciliation notamment avec les plus riches, voilà. Ou avec les oppresseurs plutôt. Voilà. Alors cette lecture de la croix apporterait-elle quelque chose d'un peu nouveau dans la manière de penser le salut qui nous est donné par la Pâque du Christ? Avec Joseph Rzezinski, on peut souligner d'abord que la croix en elle-même rompt la logique de l'exclusion, précisément parce que quelqu'un, volontairement, a rejoint ceux qui sont rejetés sur les marges. Je le cite, hein. « Par sa vie et sa passion, Jésus annule l'exclusion. Je retourne vers le Père, les mains et les pieds troués. J'entre au paradis en crucifié pour l'éternité, et je te choisis pour compagnon. » Le Fils de Dieu se tient à la droite du Père, marqué des signes de la passion. Et à ses côtés se tient le bon larron, garant du pacte engagé sur la croix, témoin de l'alliance qui lie Dieu au plus misérable d'entre les hommes. Donc voyez, dans sa perspective, on pourrait dire, à partir de la croix tout spécialement, quelque chose de définitif est scellé entre Dieu et l'humanité, plus précisément, entre Dieu et la part la plus misérable de l'humanité. Celle-ci est admise en Dieu, en la personne du Christ. C'est le Christ aux mains trouées, donc marqué par l'infamie, qui siège à la droite du Père. Et Joseph Rzezinski ajoute que la présence du larron, il imagine le larron qui est là aussi, à côté du Christ, elle montre d'emblée qu'il ne vient pas seul, mais qu'il amène avec lui, auprès de Dieu, ceux qui subissent l'humiliation et la condamnation. Tout cela, alors voilà, donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'autre aspect du Christ qui, disons, sur la croix, et disons, la descente aux enfers étant comme le prolongement de ce qui n'a pas pu se vivre à la croix, mais qui en indique le sens, la volonté qui était à l'œuvre, qui cherchait aussi à rejoindre, disons, l'humanité qui était plutôt du côté de l'oppression. On peut dire la croix a déchiré le Christ, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Ce qui s'est exprimé sur la croix, c'est cette volonté de tenir ensemble ces deux extrêmes de l'humanité. Alors tout cela propose une vision du salut qui se décline avant tout en termes relationnels. Le salut, dans cette perspective, c'est une relation rétablie, beaucoup plus qu'une pesée des actes individuels. On pourrait dire... Tout ce qui serait du côté de la rétribution des actes ou d'un jugement passe au deuxième plan, au profit d'un travail de réparation. Le Christ répare les liens défaits. Il le fait en allant proposer de nouveau la relation aux frères qui sont dans l'enfer du mépris des autres, on pourrait dire. Et c'est ce Christ aux mains trouées, l'homme de la misère, qui va à leur rencontre pour un renouement ultime, pensant que tout homme devrait être capable de ce renouement. Donc se refusant de désespérer d'eux. On pourrait se demander, mais pourquoi cela peut-il me sauver? Alors, il y a le simple fait de ne plus être isolé, mais d'être de nouveau relié à d'autres, et ça je crois qu'en soi, c'est un événement de salut. Mais on pourrait aussi ajouter une autre chose, c'est qu'il y a aussi une réconciliation intérieure qui se produit à travers cela. C'est qu'à partir de cette lecture de la croix, je crois qu'il devient possible à tout homme de reconnaître en lui-même deux versants de son humanité qui habituellement sont rigoureusement incompatibles l'une avec l'autre. Le souci de réussir, d'une part, et la peur d'être humilié, d'autre part. On retrouvera ici tout ce qu'on a entendu autour de la honte ce matin. Voilà ce qui nous déchire, et ça nous déchire aussi chacun, personnellement. Et voilà ce qui peut nous conduire à déchirer le monde. On pourrait interpréter les déchirures du monde comme une sorte de, disons, d'extériorisation de ce conflit intérieur à chacun. les mains transpercées de Jésus proposent de nouveau une unité en autorisant des retrouvailles qui étaient jusqu'à présent impossibles. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai dépassé le temps ou pas ?
C'est bon, ok.